Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude de la deuxième épître de Pierre et nous commencerons nos réflexions à partir du chapitre 3. Ce chapitre aborde des questions concernant le retour de Jésus-Christ et il nous aide à comprendre la façon dont nous pouvons vivre à la lumière de ce grand événement à venir. Stéphane est de retour parmi nous pour nous aider à parcourir cette lettre peu connue et à saisir son message. Stéphane, bonjour.
Bonjour Ian, bonjour à tous. Pour commencer, je vous propose d'écouter le texte sur lequel nous allons discuter aujourd'hui. Nous sommes dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, versets 1 à 7. Cédons la parole à notre lectrice.
Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé !» Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront.
Merci. L'apôtre Pierre a écrit cette lettre aux églises d'Asie mineure vers la fin de sa vie, probablement aux alentours de l'an 65 de notre ère. Ces églises devaient faire face à plusieurs difficultés, et Pierre écrit pour les mettre en garde contre certains dangers, pour les instruire et aussi pour les encourager. Lors de notre dernière série, nous avons étudié le chapitre 2. Dans ce chapitre, l'apôtre avertit les croyants des dangers que représentent les faux enseignants. Il veut les aider à reconnaître un faux enseignant et les encourager à rester fidèles à l'enseignement de Jésus et des apôtres. Et tout comme vous l'avez déjà mentionné, Ian, au chapitre 3 de sa lettre, Pierre aborde quelques questions au sujet du retour de Jésus-Christ.
Et pourquoi cela est-il nécessaire?
Eh bien, nous l'apprenons dans le texte que nous avons lu. Un élément fondamental du message que nous proclamons est que Jésus-Christ reviendra un jour pour faire toutes choses nouvelles. Les chrétiens, qui vivaient au premier siècle, croyaient fermement à cela. Toutefois, les gens de leur époque se moquaient d'eux au sujet de cette croyance et les tournaient en ridicule.
Pourquoi?
Parce que le temps passait et Jésus n'était toujours pas revenu. En subissant les moqueries et les insultes des gens, il est probable que certains chrétiens commençaient à douter du retour de Jésus-Christ. Ils devaient se demander si les incroyants, après tout, n'avaient pas raison.
Je trouve cette question pertinente pour nous aussi. Quand nous voici presque 2000 ans plus tard, Jésus n'est toujours pas revenu. De nos jours encore, on peut se moquer de nous à cause de cette croyance et nous pouvons nous demander si après tout, Jésus accomplira sa promesse.
C'est vrai, Ian. Voilà une raison de plus pour étudier cette deuxième lettre de Pierre. Car au chapitre 3, il cherche à nous rassurer. Il nous explique pourquoi Jésus tarde à venir. Dans le texte que nous avons écouté aujourd'hui, Pierre rappelle trois vérités importantes. Trois vérités que le monde n'aime pas entendre, mais cherche plutôt à nier. Il est important que le chrétien ait confiance en ces trois vérités, s'il veut tenir bon toutes les fois que le monde se moque de lui.
D'accord. Quelles sont donc ces trois vérités?
Eh bien, commençons par la première. Dieu est le Créateur Tout-Puissant. Citons l'apôtre Pierre. Il dit ceci. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De nos jours, beaucoup de gens mettent leur foi dans la science et affirment que l'univers et la vie sont le résultat du hasard et de l'évolution. Ils nient l'existence du Dieu créateur. Nous devons reconnaître que la science a fait des découvertes merveilleuses et contribue considérablement au progrès de nos sociétés et à l'amélioration de la santé et de la qualité de la vie. En ce qui concerne la foi, elle suscite des questions profondes et complexes. Mais admettons-le, la science a ses limites et elle est malheureusement imparfaite. Toutefois, si de nombreux scientifiques s'obstinent à nier l'existence du Dieu créateur, d'autres déclarent qu'il est vivant et qu'il est possible de réconcilier la foi et la science. Nous affirmons donc, en tant que chrétiens, que Dieu a créé l'univers entier. Il a créé toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles. Genèse chapitre 1 révèle que Dieu a créé toutes choses simplement par la parole. Autrement dit, il suffit qu'il dise un mot et la chose existe. C'est une façon de décrire la toute-puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas expliquer scientifiquement comment il a pu réaliser cela. Comme je l'ai dit auparavant, la science a ses limites. La Bible affirme donc que Dieu est le créateur de toutes choses. Il demeure le maître souverain de l'univers entier. Sa puissance créatrice est incomparable et dépasse notre entendement.
Merci. Et quelle est la deuxième vérité que Pierre rappelle aux chrétiens?
Il nous rappelle un événement qui nous est raconté dans le livre de la Genèse, du chapitre 6 au chapitre 9. Il s'agit de l'histoire de Noé et du déluge. En fait, ce récit nous rappelle que Dieu a pratiquement détruit le monde à cette époque-là, et qu'il a déjà eu, en quelque sorte, une nouvelle création. Cette histoire nous enseigne la vérité suivante. Dieu est à la fois juge et le sauveur de tous ceux qui se confient en lui. Pierre cite ce récit, Noé et le déluge, parce qu'il présente des similitudes avec notre situation.
Quelles sont ces similitudes?
Dieu avait prévenu Noé du fait qu'il allait anéantir le monde en envoyant un déluge qui couvrirait la terre. Le Dieu créateur, confronté au mal commis par l'humanité, allait détruire la création pour tout recréer, pour recommencer avec seulement Noé et sa famille. Tout devait repartir à zéro. Noé devait avertir ses contemporains de ce jugement de Dieu, sur le point de se mettre en place. Il devait aussi construire un grand bateau, qui devait le sauver avec sa famille et de nombreux animaux. Cependant, les gens ne croyaient pas Noé. Ils se moquaient de lui. Noé, quant à lui, n'a pas abandonné la foi. Il était convaincu que Dieu allait tenir sa parole. Il a donc terminé la construction de l'arche, c'est-à-dire du grand bateau, par lequel lui et ses proches allaient être sauvés. Eh bien, nous vivons dans une situation semblable à celle de Noé. Nous annonçons un message qui peut déplaire aux gens, un message qu'ils ne veulent pas croire et dont ils se moquent. Nous annonçons que Jésus reviendra pour juger tous les humains et pour faire toutes choses nouvelles. Nous pouvons tenir bon et persévérer fort de la conviction suivante. Dieu a déjà soumis une fois la terre entière au jugement d'un cataclysme et il a dû tout recréer. Alors pourquoi ne le ferait-il pas une deuxième fois? Oui, le récit de Noé devrait nous remplir de confiance et il faut s'en souvenir toutes les fois que les gens nous ridiculisent.
Merci Stéphane. Et quelle est la troisième vérité dont il faut se souvenir?
C'est qu'il y aura un jugement à venir pour lequel il est essentiel de se préparer. Ce jugement aura lieu lors des événements qui accompagneront le retour de Jésus-Christ. Écoutons une fois de plus ce que l'apôtre Pierre a écrit. « Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. »
À l'époque de Noé, tout a été détruit par les eaux. Il y a eu un grand déluge. En ce qui concerne le jugement à venir, Pierre affirme que tout sera livré au feu.
Oui, c'est exact, Ian.
Ça l'est terrifiant.
En effet, ce sont des paroles solennelles. Elles devraient nous faire réfléchir sur notre destin et la façon dont nous menons nos vies. Attardons-nous un peu sur la notion du feu dans la Bible. Le feu est l'image de la purification. Le feu peut consumer ou détruire ce qui est mauvais, mais aussi rendre plus beau ou fort ce qui existait déjà. Si Dieu va juger toute la création en la passant par le feu, cela veut dire qu'il va détruire tout ce qui ne va pas, pour laisser place à une nouvelle création, purifiée de tout mal, de tout malheur et de toute souffrance. Il y a donc dans la notion du feu un élément d'espérance. Prenons un exemple. Lorsqu'on met sur le feu un métal précieux, il fond et toutes ses impuretés montent à la surface et peuvent être enlevées. En refroidissant, le métal précieux est plus raffiné, il prend de la valeur. Citons à présent le prophète Ésaïe au chapitre 43 de son livre, au verset 2. Nous lisons ceci. « Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. » Je suis persuadé que nous pouvons lire ce verset à la lumière de l'enseignement de Pierre et en conclure que le peuple de Dieu survivra au feu au jour du jugement, grâce bien sûr au salut accordé en Jésus-Christ. Le peuple de Dieu passera par le feu, mais en sortira raffiné, purifié de tout mal, purifié de toute pollution morale et spirituelle. Nous passerons par le feu et en sortirons pour vivre dans une nouvelle création, également purifié de tout mal et de tout esprit mauvais.
Merci pour cette précision importante et ces paroles emplies d'espérance. Toutefois, Pierre affirme que ceux qui se moquent de Dieu périront.
Oui, c'est exact, Yann. À l'époque de Noé, les gens se sont moqués de lui et ont refusé d'entrer dans l'arche, le seul moyen de salut. Ils n'ont pas respecté Dieu. Alors, quand le déluge est arrivé, ils ont péri. De la même manière, aujourd'hui, le seul refuge pour échapper au feu purificateur envoyé par Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut se tourner vers lui avec foi et en se repentant de ses fautes pour sortir du feu du jugement indemne, sain et sauf, et purifié du mal. Ceux et celles qui refusent d'écouter ce message solennel périront, car ils ne respectent pas Dieu, et ils ne le révèrent pas, ils ne l'aiment pas. Ils s'obstinent à rejeter son règne, ils refusent d'obéir au véritable roi. Puisque Dieu a déjà tout détruit une fois, nous pouvons être sûrs qu'il le fera une deuxième fois. C'est pourquoi nous appelons chacun à bien réfléchir sur ces vérités et à se préparer pour ce jour redoutable.
Nous remercions Stéphane pour sa participation et pour nous avoir expliqué ces vérités difficiles. Il sera bientôt de retour pour aborder d'autres questions au sujet du retour de Jésus-Christ. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.